Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour, confinés et moins confinés, nous sommes ensemble pour la prochaine demi-heure et on commence ce programme, comme d'habitude, avec les brèves. Et ce lundi, le nombre de personnes contaminées au Covid-19 qui s'élevait à exactement 8123 en Tchéquie depuis le 1er mars pour plus de 300 000 tests réalisés dans le pays. 28 nouveaux cas de la maladie ont été recensés au cours de la journée de dimanche, tandis que samedi, 18 nouveaux cas positifs avaient été détectés. La hausse quotidienne du nombre de cas de coronavirus est pour la 10e fois inférieure à 100. 280 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie en Tchéquie. En revanche, 4842 personnes ont été déclarées guéries de la maladie. Économie. Plus de la moitié des Tchèques sont en difficulté financière suite aux mesures de restriction imposées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. C'est ce que révèle une enquête menée fin avril par la société de crédit à la consommation Fair Credit, étude réalisée auprès de 880 personnes. D'après ce sondage, la fin du mois d'avril a été financièrement difficile pour 43% des Tchèques, tandis qu'avant la mise en place de l'état d'urgence dans le pays, 28% des Tchèques déclaraient avoir des fins de mois difficiles. Toujours d'après ce sondage, un Tchèque sur 10 décide d'emprunter de l'argent avant de toucher son salaire mensuel. Le plus souvent, il s'agit de personnes âgées entre 27 et 35 ans, en majorité des femmes. L'épidémie de Covid-19 et les mesures d'hygiène adoptées pour lutter contre le virus a conduit à une augmentation significative de la consommation de plastique à usage unique. C'est ce que révèle ce lundi la télévision publique tchèque. Assiettes, couverts, bouteilles, gants, emballages et autres plastiques ont permis notamment de maintenir en service certains restaurants ou des bars via la vente à emporter. La consommation de ces plastiques à usage unique a ainsi augmenté de 30%, voire plus dans le cas des gants. Rappelons que l'Union européenne veut définitivement bannir cet usage de plastique à usage unique l'an prochain et remplacer ces plastiques par des matériaux alternatifs. On passe au sport avec la Fédération tchèque de tennis qui a annoncé la tenue d'un tournoi à Prague du 26 au 28 mai. Il rassemblera ce tournoi la plupart des meilleurs joueurs et joueuses du pays, dont Petra Kvitova, Barbora Strýcová ou encore Kristina Plíšková. Côté homme, l'ensemble de l'équipe de la Coupe Davis a été annoncé avec à sa tête Jiří Veselý. Le tournoi a un objectif caritatif car les bénéfices de gains des joueurs devraient aller à la lutte contre la pandémie en Tchéquie et à ses conséquences. On termine avec un mot sur la météo. Avec ce mardi, jour de fête des Pankrats, s'annonce fidèle à la tradition qui veut qu'il fasse froid, voire qu'il gèle au moment des saints de glace que sont Pankrats, Servats et Bonifats. Après un lundi encore relativement doux, mardi verra une baisse importante des températures en Tchéquie, 11 degrés pour les maximales. Le ciel devrait rester nuageux malgré quelques éclaircies. La suite du programme en français de Radio Prague International dans une poignée de secondes.
Faits et événements en République tchèque.
Et dans la suite du programme en français de Radio Prague International, nous allons parler déconfinement car aujourd'hui, ce lundi, marque une étape importante dans le déconfinement du pays. On en reparle dans un instant. Ce sera juste avant de parler musique classique avec le début d'un festival du printemps de Prague, pas comme les autres, évidemment, à cause de la pandémie. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, comme il n'y a pas que le coronavirus dans la vie, nous parlerons cinéma, de cinéma tchécoslovaque et de la nouvelle vague. Très bonne écoute. Prendre un café en terrasse, visiter un musée ou une galerie, se faire couper les cheveux et aller au théâtre ou au cinéma, ces activités figurent enfin parmi celles de nouveau autorisées en Tchéquie depuis ce lundi matin. Il s'agit d'une nouvelle étape du déconfinement qui devrait être complet d'ici au 25 mai.
Na zdraví.
Na zdraví.
On avait oublié ce bruit des verres de bière qui s'entrechoquent pour se souhaiter une bonne santé. Et la météo maussade risque pour certains de gâcher le plaisir, mais il est assez probable que dès ce soir circulent des images de clients trempés par la pluie, mais pouvant enfin déguster une pinte sur les terrasses des brasseries et restaurants, des établissements qui ont dû faire face à une baisse de leurs recettes aussi brutale qu'inattendue ces dernières semaines. À partir d'aujourd'hui, donc, tous les établissements dotés d'une terrasse, c'est une précision importante, ou d'un jardin, peuvent légalement ouvrir, pardon, pour ceux davantage attirés par un peu de culture avant de s'adonner à la brassiculture. Eh bien, les musées et les galeries ont donc également rouvert. Quant à ceux et celles dont la mèche ou la barbe ont été trop longtemps négligées, il est désormais possible d'aller faire couper, tailler ou teindre tout ça. Les salons cosmétiques et de massage peuvent aussi rouvrir depuis ce matin. Et les écoles, me demanderez-vous, et les écoles, s'interroge une partie de la population chez qui, il faut bien le dire, on sent poindre une irrépressible envie de voir les plus jeunes du foyer retourner au plus vite dans leur établissement scolaire. Sachez d'ailleurs que le mot « harantena » est un des mots valises tchèques inventés pendant la pandémie. Une combinaison du mot « harant » qui veut dire « gosse » et de « quarantena » qui veut évidemment dire « quarantaine ». Un mot inventé sans doute par des parents exténués par le cumul de la classe à la maison et du confinement. Bref, côté scolaire, il faudra encore s'armer de patience pour les plus jeunes. Mais dès ce lundi, les adolescents en classe de 9e peuvent retourner en cours pour préparer leurs futurs examens d'entrée dans le degré supérieur. Même chose pour les bacheliers, dont le nombre est limité à 15 par classe également. Dans la même limite, les cours de langue ont pu reprendre. Les frontières rouvrent-elles aussi, lentement mais sûrement. Les transports ferroviaires et routiers peuvent reprendre, depuis ce lundi également, mais les compagnies attendent encore de savoir ce que prévoient notamment les autorités allemandes et autrichiennes. La société RegioJet a, elle, annoncé que les premiers cars vers Dresde et Berlin partiront mercredi de Prague, en attendant des départs pour Vienne prévus bientôt. Les masques, bientôt la fin des masques. Eh bien, alors que certains pays d'Europe commencent seulement à s'habituer au port du masque dans l'espace public, il se pourrait bien qu'il cesse d'être obligatoire en Tchéquie d'ici 2 semaines. C'est en tout cas ce que a annoncé ce lundi matin le ministre de la Santé, Adam Wojtěch, qui a ajouté sur la télévision publique tchèque que sa proposition sera débattue cette semaine en Conseil des ministres. Enfin, côté sport, sachez que la reprise de l'entraînement a réussi au Bohemians 1905. Dans un des premiers matchs de foot amicaux ayant pu être disputé lundi, les Kangourous de Prague se sont imposés 2-1 face à l'équipe de Roudim, qui joue, il faut le dire, en deuxième division. La musique adoucit les mœurs, la musique classique adoucira peut-être le déconfinement. Sans être annulé ou reporté, le traditionnel festival international de musique, le Printemps de Prague, dont la 75e édition devait ouvrir ses portes le 7 mai, se tient uniquement en ligne cette année, évidemment en raison du coronavirus. Une dizaine de concerts seront diffusés en direct jusqu'au 4 juin prochain. Des détails sur le programme, c'est avec Magdalena Hrozinkova.
Œuvre emblématique du festival du printemps de Prague, Ma patrie de Bedřich Smetana n'inaugure pas cette année le plus important événement du genre en République tchèque. Néanmoins, pour être fidèle à la tradition, les organisateurs proposent ce lundi soir sur la télévision tchèque la rediffusion de quelques-unes des interprétations mémorables du célèbre cycle de poèmes symphoniques. Le véritable coup d'envoi de la manifestation sera donné, comme chaque année, le 12 mai par un concert inaugural présenté depuis le toit du palais du Rudolfinum par le musicien Andrei Havelka. Au programme de cette soirée inhabituelle, une œuvre composée spécialement pour cette occasion par Petr Vajsar. Sa variation sur la chanson Happy Birthday est une manière originale de célébrer le 75e anniversaire du festival. Parmi les invités du concert d'ouverture figurent les mezzo-soprano Dagmar Petskova et Bernarda Fink, le corniste Radek Baborak ou encore le pianiste américain Garrick Olson, qui se produiront depuis leur lieu de résidence. Au cœur de cette 75e édition inédite, une dizaine de concerts qui seront diffusés en direct et gratuitement sur le site du festival. Certains seront retransmis par la télévision et la radio publique depuis les salles de concert à Prague et à Brno. Les amoureux de musique pourront entendre les principaux orchestres philharmoniques tchèques ainsi qu'une brochette de solistes de renom. À noter par exemple le récital du baryton basse Adam Plachetka et du pianiste David Schwetz qui présenteront le Voyage d'hiver de Franz Schubert ou encore celui du violoniste canadien James Hance qui interprétera exclusivement pour le Printemps de Prague depuis la Floride les compositions de Jean-Sébastien Bach et d'Eugène Isaïe. La musique de Ludwig van Beethoven sera mise à l'honneur par l'Orchestre philharmonique tchèque et son chef invité, Jakub Hruša, lors du concert de clôture du festival programmé pour le 4 juin prochain. 53 concerts devaient figurer au programme de cette édition anniversaire du Printemps de Prague. Des billets avaient été vendus pour un montant d'environ 1 million d'euros. Ils seront tous remboursés, selon le directeur du festival, Roman Bielor. Toutefois, comme c'est le cas pour d'autres manifestations culturelles également, les spectateurs peuvent renoncer au remboursement de leur place pour soutenir les futurs projets du festival.
Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague International, deuxième partie de ce programme quotidien avec aujourd'hui la rediffusion d'un entretien passionnant réalisé par Anne-Claire Veluire avec Alice Lovejoy. Alice Lovejoy est une historienne américaine du cinéma et à travers son étude sur le cinéma militaire tchécoslovaque, elle a retrouvé les racines d'une structure de production cinématographique à l'origine, peut-être, de la nouvelle vague du cinéma de l'époque.
Chapitre de l'histoire.
Alice Lovejoy est diplômée de Yale et elle enseigne désormais à l'Université du Minnesota. Son domaine de recherche porte sur les relations entre le cinéma et l'État et c'est dans ce cadre qu'elle a mené cette étude sur l'histoire des films militaires tchécoslovaques, une étude qu'elle est en train d'adapter pour la publication d'un ouvrage. On écoute Alice Lovejoy.
C'est une histoire de l'expérimentation soutenue par l'État. Ça, c'est la question fondamentale du livre. Ça commence dans les années 30, quand le cinéma militaire s'est établi après la Première Guerre mondiale, mais dans les années 30, l'institution s'est grandie et il y avait des relations fortes entre le cinéma militaire et l'avant-garde cinématographique, photographique tchèque. Donc, je commence avec ça, avec Jiří Janíček, qui était le chef de la groupe filmique dans l'armée. Et il avait des relations fortes avec l'avant-garde, avec la théorie du cinéma international. Et il essayait à créer un espace, une institution, où les jeunes cinéastes auraient le soutien de l'État pour faire les expérimentations. Donc, c'était de l'argent de l'État, c'était les ressources matérielles qu'ils ont utilisées pour faire la propagande. Mais la propagande, c'était quelque chose qui comprenait beaucoup de style, des effets esthétiques, etc.
Quel type de film il faisait, sur quel sujet?
Donc en fait, il y a trois films sur lesquels j'écris. Ces trois films sont Naše armada, Vojáci v horách et Vnový život. C'est des films qui ont tous été faits aux fins des années 30 quand il y avait besoin de la propagande pour l'État tchécoslovaque. Parce qu'il y avait surtout c'était la guerre qui approchait. Donc ces trois films, c'est des propagations de l'État, mais en même temps, ce sont des films qui étaient faits par les gens qui travaillaient dans l'avant-garde. Par exemple, Jiří Lahovec, c'est une des cinéastes avant-garde très bien connus des années 30. Lui, il travaillait pour l'armée dans cette période. Et il a aidé Janíček à faire les premières deux films. Donc tu peux voir là les stratégies de l'avant-garde. Tu peux voir le montage expérimental. Tu peux voir le montage expérimental. Tu peux voir les cadrages innovateurs aussi. Donc toutes les choses qu'on associe avec les cinémas d'avant-garde, tu peux les voir dans ces films de propagande.
Donc cela se passe avant la Deuxième Guerre mondiale. Comment ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, d'autant plus que la Tchécoslovaquie se retrouve dans le bloc de l'Est après 1948.
Bien sûr, les cinéastes n'ont pas travaillé pour l'armée pendant la guerre, parce que l'armée cessait d'exister comme telle, mais... après la guerre, les mêmes gens se sont trouvés dans le cinéma militaire pour les 3 ans de 45 jusqu'à 48. En 50, le studio a changé beaucoup. Alexei Tchepichka est devenu ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation pour sa coopération avec les procès, etc. C'était le mari de la fille de Gottwald, en fait, mais... c'est quelqu'un qui avait une vision de la culture militaire qui était grande. Et en fait, il a fondé beaucoup des institutions culturelles militaires, des bibliothèques, une opéra, des théâtres, etc. Et il a changé, il a transformé Armani Films en une vraie studio. Et il avait donné beaucoup de ressources financières, ressources matériaux au studio. Puis elle a établi, on peut le dire, c'était un programme où les jeunes cinéastes qui ont terminé à FAMU, ils ont fait leur service militaire dans Armani Film. Donc il y avait un lien qui était vraiment fort entre le cinéma nationalisé et Armani Film. Mais la différence importante, c'est que Armani Film, c'était le seul parti de la cinématographie tchécoslovaque après la guerre qui n'était pas une partie de la cinéma nationalisée. C'est aussi les films amateurs qui n'étaient pas une partie. Mais donc c'est important de voir qu'il y avait une institution qui était autonome, mais en même temps qu'il y avait beaucoup de ressources de se développer, de changer, de devenir ce que les gens en charge voulaient que ça soit.
Quand on pense aux années 50, on pense à un régime qui s'installe et qui se met en place et qui veut tout contrôler et qui veut tout surveiller. Comment ça se passe dans ces studios?
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de regarder le studio par un point de vue pédagogique. Bien sûr que le studio a fait beaucoup de films d'instruction, des films qui ont introduit les nouvelles technologies soviétiques, les façons de se battre, des techniques de bataille, etc. Mais c'est des films où les jeunes cinéastes pratiquent aussi. C'était une façon d'étudier le cinéma. Par exemple, František Vlachil. C'est un des plus grands cinéastes des années 60-50. Lui, il n'était pas un étudiant en FAMU, mais il travaillait pour un Armani Film entre 50, dans les 50 jusqu'à les 58. Donc là, il a fait ses premiers films. Il a appris comment être réalisateur dans l'armée. Donc ça, c'est un grand exemple de comment le studio a fonctionné dans un sens pédagogique, mais avec deux sens pédagogiques. Ça pour les réalisateurs et ça pour les soldats.
Et justement, à propos de František Vlachil, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, on retrouve aussi beaucoup de jeunes cinéastes de la nouvelle vague qui font leur service militaire au sein de ces studios militaires.
Exactement. Dans les années 60, on voit beaucoup de gens qui étaient éventuellement la nouvelle vague qui ont fait leur service militaire à Armani Film. C'est des gens comme Jan Schmidt, Pavel Juracek, Karel Vachek, Jiří Menzel, Jan Němec, plusieurs gens qui ont fait leur service de l'armée là, dans le studio. Donc, tu peux voir une espèce d'expérimentation dans le studio et je pense que c'est parce que ces films, la plupart des films, c'était pour les soldats. C'était des films qui n'étaient pas distribués. Donc, ils ont fait des courts-métrages, ils ont fait des films scientifiques, ils ont fait des journaux. Ils ont fait des films d'instruction. Et tu peux voir une espèce encore d'expérimentation là pour ces films qui n'étaient pas distribués dans un public plus grand. Mais il y avait bien sûr aussi des documentaires qui étaient distribués. Et en les 50 et 60, il y avait des films de long métrage qui étaient distribués. Comme par contre Tankova Brigada de l'année 55 et de l'année 67. Connaître ce pnab, Hôtel Ozone, de Jan Schmidt, qui est en fait un film militaire, un film d'armée. Donc, il y avait beaucoup de genres dans lesquels les réalisateurs travaillaient. C'est plus divers qu'on penserait.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, les jeunes réalisateurs avaient paradoxalement beaucoup plus de liberté que ce qu'on aurait pu penser au départ.
Exactement, c'est la contention principale du livre que c'est une institution qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et d'autonomie. Et c'était un endroit où les gens pourraient pratiquer. Mais en même temps, c'était pas une chance, de la chance que c'était comme ça. C'était délibéré. Des années 30, quand Janíček a fondé les premiers studios militaires, il a pensé au studio comme un endroit où les jeunes cinéastes peuvent pratiquer, peuvent expérimenter. Et pour lui, le modèle, c'était le mouvement documentaire anglais. Et John Gerson, surtout, c'est qui était une figure immense dans l'histoire du documentaire mondial et documentaire canadien et britannique en spécifique.
C'était la rediffusion d'un entretien avec l'historienne américaine du cinéma Alice Lovejoy. Un entretien réalisé par Anne-Claire Veluire en 2012. Et c'est ainsi que se termine le programme en français de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre attention. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Sur Twitter, c'est Radio Prague FR. Pour réécouter cette émission ou une autre des émissions des archives de Radio Prague International, une seule adresse, www.radio.cz/fr. Et pour toute suggestion ou question sur Facebook ou Twitter, nous tenterons d'y répondre. Prenez bien soin de vous et de vos proches. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À bientôt. Ahoy!